Silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre deux Mers 98.4 FM, www.redem.com. C'est la matinale qui débute. C'est pas la matinale, c'est la non. Conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Excuse-moi d'éclater de rire parce que je me suis dit ça y est, il s'est lancé dans la matinale. Bonjour Damien.
Non, la matinale c'était pas.
Ça y est, la matinale c'est passé quand même. Tu rappelles d'ailleurs les heures de la matinale pour les... parce qu'ils vont, se paumer là, c'est entre eux.
C'est de 9h à 11h.
Et ben voilà.
Et donc là, on est 11h, donc c'est plus la matinale.
Voilà, donc on est d'accord, hein. C'est à 9h, 11h.
Et donc aujourd'hui, en ce mercredi, tu viens nous présenter les films qui sortent aujourd'hui au cinéma. Mais avant tout, tu voulais avoir quelques mots pour un acteur, réalisateur qui nous a quittés fin juillet, qui s'appelle Jean-François Stevenin.
Oui, mais attends, j'ai pas dit bonjour quand même. Bonjour à nos chers auditeurs, là. Oh là là là, ça y est, on peut plus dire bonjour les enfants. Bonjour chers auditeurs, merci de nous recevoir chez vous. En tout cas, bonjour Damien, j'ai même pas eu le temps du coup. Bonjour. Entre la matinale et le cinéma, bonjour. Oui, Jean-François Stevenin, oui, il est décédé le 27 juillet. Il avait 77 ans, pas vieux, hein, des suites d'une longue maladie, nous a-t-on dit. Là, c'était... Alors voilà, c'était un... on dit de lui que c'était un acteur à gueule, autodidacte, patriarche, chef de clan, généreux. Voilà tout ce qu'on dit sur lui. Il a réalisé 3 films. Ouais, on va les nommer. Et quel film ! Il y a eu Passe-Montagne, il y a eu Double Messieurs, il y a eu Mishka. Voilà, c'était. Ils nous disent aussi que Jean-François Stevenin était un personnage attachant et singulier. Et c'était. On nous dit également que c'était un mélange improbable de Jack Nicholson et de Bozo le clown, qui avait fait de lui un des seconds rôles les plus populaires du cinéma français. Ben, par exemple, dans des films d'auteurs les plus pointus, comme dans les superproductions. C'est-à-dire qu'il y avait des films d'auteurs d'un côté, et puis des superproductions de l'autre côté. Par exemple, du type de La Révolution française, sorti en 1989, ou Le Pacte des loups aussi, sorti en 2001. Ça, c'était les superproductions. Et puis, on l'a vu aussi, on va le retrouver le 20 octobre à l'affiche d'Illusion perdue. L'adaptation par Xavier Giannoli du roman de Balzac, Illusion perdue. Voilà, mais c'était un patriarche débonnaire aussi, voilà, c'est ce qu'on nous dit, d'une lignée de comédiens. Sa fille Salomé et ses 3 fils, Sagamore, Robinson et Pierre, ont également attrapé le virus du cinéma. J'ajoute surtout du cinéma. En ce moment, parler de virus, c'est toujours un petit peu ambigu. Non, c'était bien le virus du cinéma, enfin le virus du spectacle. Voilà. Et c'était un cinéaste singulier aussi. Alors, comme une sorte de John Cassavetes français. On connaît John Cassavetes, le réalisateur-acteur qu'on appelait l'ange. Il avait un visage d'ange, on l'appelait comme ça d'ailleurs. Et voilà, mais malheureusement, il n'a pu tourner que 3 films. Et des films, pas n'importe quel film, d'une audace narrative. C'est ce qu'on nous dit également. Là, en fait, alors Passe-Montagne, donc, il l'a réalisé en 1978. Et il, d'ailleurs, c'est un, le personnage dans, dans Passe-Montagne, l'a vraiment, il l'a filmé comme, comme personne d'autre ne pouvait filmer. Et il y restera fidèle, d'ailleurs, jusqu'à sa mort. Voilà. Il y possédait, comme, comme il nous dit, à cet endroit, justement, cette montagne qu'il a filmée dans, dans Passe-Montagne, il y possédait une fermette remplie de courants d'air. C'est lui qui disait ça. Il l'appelait son ranch. Eh oui, c'est quand même... Il a été inscrit à HEC, hein, Jean-François Stévenin. Ouais. Mais en fait, quand il était à HEC, il passait plus de temps dans les salles de cinéma que dans les salles de cours. Eh oui. Donc c'était, puis quand il avait un peu de temps libre, il suivait les cours de l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique à La Havane. Et oui, et grâce, alors ça c'est assez savoureux, grâce à un piston d'un cousin de Che Guevara, pardon, il a décroché un stage sur un tournage en pleine jungle. C'était, il commençait, c'était une, ça commençait hein, cette vie extraordinaire quand même. Puis quand il est revenu à Paris, il s'est retrouvé assistant sur le plateau de La Chamade d'Alain Cavalier aux côtés de Catherine Deneuve et de Michel Piccoli. Et ouais, c'était en plein mai 68 ça d'ailleurs. Voilà. Et donc du coup, il a découvert là une manière beaucoup plus aventureuse de faire du cinéma avec, avec à ce moment-là, avec Jacques Rosier, Jacques Rivette, par exemple. Sur le tournage d'Aote 1, Noli me tangere, le film monstre de 12h40, entièrement improvisé, de Rivette et de Suzanne Schiffmann. Voilà. Il y avait Juliette Berthaud aussi qui suggérait que cet assistant, elle disait... Il ressemble à Brando, Marlon Brando. Et oui, elle a donc suggéré, excusez-moi, qu'il joue le rôle d'une petite frappe inspirée par le personnage de Motard qui révéla la star américaine Marlon Brando hein, dans L'équipe sauvage. L'équipée, pardon, c'est L'équipée sauvage. Alors du coup, bah, Stévenin, très acteur studio sur ce coup-là, il a collé une baffe monumentale à l'actrice dans une scène au café. L'empoignade avec sa partenaire qui s'ensuit, elle, n'a plus rien de chiqué. Ah oui, il devait lui donner une gifle et la gifle a été réellement magistrale, une vraie gifle. Ben, c'était lui ça, c'était tout lui, hein, tout à fait. Et puis son premier rôle marquant, ben, ce sera dans L'argent de poche de François Truffaut en 1976. Il interprète un instituteur tellement humain qui touche au cœur en fait. Et puis après, il s'est lancé dans l'aventure de sa première réalisation, justement, on en parlait, dans Passe-Montagne en 78. C'est l'histoire d'un architecte qui tombe en panne de voiture en plein Jura et qui se lie d'amitié avec un garagiste bizarre qui va lui faire découvrir les mystères et les drôles de loustiques du coin. Puis après, c'était un western en fait, hein, campagnard, et après... qui était, suivra donc le Double Messieurs. Hein, j'ai cité le titre tout à l'heure, 1986. C'est un nouveau récit buissonnier sur les hauteurs de Grenoble où deux copains d'enfance, il y avait Stévenin lui-même qui joue dans le film et Yves Alfonso, partent à la recherche de leur ancien souffre-douleur du temps des colonies de vacances. Double Messieurs. Et puis après 16 ans d'attente, en 2002, il réalise Mishka, un road movie picaresque qui flirte avec le fantastique social où un papy abandonné sur une aire d'autoroute est pris en charge par un infirmier azimuté, une adolescente et une gitane roqueuse. Alors évidemment, ce film, aussi libre que les deux premiers, hein, il l'a tourné en fait en chef de clan parce qu'il y avait sa femme Claire, qui est une actrice, il y avait ses enfants Salomé et Robinson devant la caméra. Et son équipe technique, donc les monteuses, ingénieurs du son, etc., ont été invités à passer 6 mois dans sa maison de Meudon, dans les Hauts-de-Seine, transformée pour l'occasion en camp de gitans. Voilà. Donc il a longtemps rêvé de porter à l'écran l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Son projet, c'était d'adapter D'un château, l'autre est nord. Mais malheureusement, ça n'a jamais pu aboutir. Voilà, donc, mais ça lui a permis de rencontrer Lucette Destouches, qui est la veuve de l'écrivain, qui deviendra sa voisine, son amie, sa mère adoptive, comme il disait dans les années 2010. Là, pendant 3 ans, il a écrit le scénario d'une fée dans le rétro, l'histoire d'un bruiteur de cinéma qui fait un voyage avec Lucette et qui rêvasse. Et dans lequel, d'ailleurs, dans laquelle il parvient à glisser des extraits de Nord. Son fils Robinson accepte de jouer le rôle principal avant de renoncer. Il nous dit « Je pense que c'était trop lourd pour lui, il n'a pas eu envie d'endosser la vie de son père ». Voilà ce qu'il expliquait en octobre 2018, quand il était interviewé à ce moment-là. Voilà. Donc, c'était un sacré bonhomme, Jean-François Stévenin.
Voilà, donc pensez à lui et à sa famille.
Et oui, maintenant, on pense à lui, oui.
Donc, on va présenter les films qui sortent aujourd'hui au cinéma.
Oui.
Et pour débuter, c'est un film d'animation qui est attendu par les plus petits, la Patte Patrouille, le film.
Ah oui. Ah ben oui, la Patte Patrouille, le film. Et oui, c'est de l'animation, bien sûr.
Et si tu veux, on met la bande-annonce pour présenter un peu cela.
Ah, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, oui, oui, oui.
Quand tout espoir semble perdu.
Partons vite d'ici !
Quand plus que jamais. On a besoin de héros. Notre destin est entre leurs pattes.
Un chien?
Pour être exact, je suis un chiot.
C'est encore pire.
Vous êtes sous le choc. Je vais pas me vexer pour ça.
Cet été.
Encore un parfait sauvetage.
Le phénomène mondial débarque au cinéma.
Pas de patrouille. Quel est le problème?
Je m'appelle Liberty, vous devez nous aider. Monsieur Ellinger va détruire Aventureville.
On est parti. Il faut sauver Aventureville.
Wow.
Bienvenue dans notre nouveau quartier général.
C'est trop cool.
Avec son distributeur de friandises high-tech.
Au moins.
Quoi? C'est une pure merveille.
Pas de chien.
Ordre du nouveau maire. Oui, il est plutôt branché, Matou.
Mesdames et messieurs, et par-dessus tout,
influenceur avec plus de 10 000 followers, il est temps d'embraser le ciel.
Il faut sauver ces gens, tous au travail.
La Patte Patrouille part en mission.
Oh, c'est pas possible.
Je m'en charge. Dégage de là. Bouge. Faut savoir employer les bons mots. Allez, roule. Faites chauffer les pneus. Extraction moto.
C'est notre mission. Aucune ville n'est trop grande, car mes amis, ils assurent.
Et oui, la Patte Patrouille, elle assure, et ça, les enfants, ils le savent bien.
Ah
et
oui.
Donc, après la série, on retrouve le film aujourd'hui au cinéma. Alors, c'est quoi cette Patte Patrouille?
1h31. Ben, c'est américain et canadien également. Ben, la Patte Patrouille part en mission. Ouais. Oh, bah oui, on l'a senti là, quand même, dans la bande-annonce qu'il partait pour sa première grande aventure au cinéma. Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Ellinger, devient le maire d'Aventureville. Oui, la ville s'appelle Aventureville et il commence à semer le trouble, ce maire. C'est à Ryder et les chiens intrépides de la Patte Patrouille de plonger dans l'action pour l'arrêter. Tandis que l'un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l'équipe va trouver une nouvelle alliée, Liberty, une teckel futée et pleine d'énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Patte Patrouille va voler au secours des citoyens d'Aventureville. Aucune mission n'est trop dure, car la Patte Patrouille assure. Oui, ah c'est quand même. Alors c'est Cal Brunker. Qui est le réalisateur du film, réalisateur scénariste, coproducteur délégué. Voilà, c'est un animateur également. Il est américain, il est américano-canadien. Hein. Il a 46 ans, 10 ans de carrière, 8 tournages à son actif, il y a 8 longs métrages. Et il a également, comme scénariste, hein, il y a 8 longs métrages dans sa carrière, dont 3 comme réalisateur. Voilà. Donc, 5 scénarios et 3 longs métrages. Ben, on lui doit, par exemple, Opération Casse-Noisette. Le premier est sorti en 2014, d'ailleurs. Ouais, c'est ce qu'on doit à Karl Brunker. C'était très joli aussi, Opération Casse-Noisette. Alors, Pat Patrouille, tu l'as dit, c'est une série d'animation. Elle a commencé d'ailleurs en 2013. Il y a à peu près, je crois que c'est 7 saisons, oui, et 156 épisodes, plus 3 spéciaux. Ont-ils ajouté ? Alors, Ryder, c'est qui, Ryder, au fait ? Parce que je l'ai cité tout à l'heure, ben, c'est un petit garçon. Ouais. C'est un petit garçon, il a 10 ans, voilà, et ses amis, complices, sont une bande de chiots. Alors, voilà, il y a 6 chiots héroïques qui s'appellent Chase, Marcus, Rocky, Ruben, Zuma et Stella. Et attention, hein, ça. Il y a aussi dans l'histoire, normalement, dans les séries, il y a une vache aussi, qui s'appelle Bettina, qui est charmante. Le Husky, lui, s'appelle Everest. Voilà, les personnages sont tout à fait attachants. Par moments, on a l'impression qu'ils sont vrais, d'ailleurs. C'est très curieux. C'est un phénomène, quand même, hein, cette histoire-là de Pat Patrouille. Ah oui. En tout cas, c'est pour la famille, c'est de l'aventure, de la comédie. Et j'espère que ma petite copine Naya va aller le voir parce qu'elle va se régaler, à mon avis. Très chouette, la patte patrouille, le film. Ça fait du bien, ce genre de film, un petit peu à toute la famille, comme ça.
Et un autre film d'animation que tu nous proposes, oui. C'est le film Pile.
Pile, oui, c'est Pile. Pas pile poil, mais c'est presque ça.
P-I-L.
P-I-L, Pile. À partir de 6 ans. Oh là là, encore un film pour ma petite copine Naya. Eh oui, il y en a des jolis. Donc c'est un film français, hein, animation, aventure, historique, fantastique. Ça dure 1h29. Mais qui c'est Pile alors au fait ? Ah ben Pile, c'est une petite orpheline qui vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses 3 fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristan qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pile se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l'héritier du trône, victime d'un enchantement et transformé en chapoule. Bah, c'est chat quoi ? Bah, c'est moitié chat, moitié poule. Oh bah, chat poule. Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pile que la noblesse peut se trouver en chacun de nous. Très joli, c'est joli comme tout, vraiment. Moi, je l'avais noté, hein, très très joli. C'est de Julien Fournet, réalisateur, scénariste français. Et oui, c'est quand même... C'est titré... Ah bah là, évidemment, ils ne se sont pas encombrés. Hein. Titré le meilleur film d'animation de l'été.
Carrément.
Carrément. Pile. C'est une comédie familiale qui est bourrée d'humour. Ouais. Ça ne fait jamais de mal, hein. Un peu d'humour sympathique. Et c'est le 3e long-métrage du studio toulousain, TAT, Production. Ouais. Et eux, bah c'est-à-dire qu'on leur doit avant, puisque je dis que c'est le 3e, on leur doit Les As de la Jungle. Ça, c'est sorti en juillet 2017. C'était David Allot, le réalisateur, et Terra Willy, Planète Inconnue, sorti en 2019, de Eric Tosti. Et là, on l'avait cité, celui-là, sur Radio Entre-deux-Mers, on avait parlé de Terra Willy, Planète Inconnue. Voilà. Et oui, ce studio toulousain fait de jolies choses, finalement. Il produit de jolis films. Pile.
Et on écoute la bande-annonce pour se rendre
compte. Ah ben oui, allez. Ah ben oui.
Une fois, une princesse pas comme les autres.
J'ai parlé d'humour.
Moi, c'est Pile. Ça, c'est Griffu. Et Touffu. Et voilà Glouton. Bienvenue dans ma ville, Roc-en-Brume. On est des orphelines. On est à la rue. Alors on doit se débrouiller toute seule.
Oh, le voilà.
Je t'aurai.
Un beau jour, il a fallu que je me déguise pour échapper aux gardes. Depuis, tout le monde me prend pour une princesse. Salut.
On dirait qu'il y en a une qui a pris la grosse tête. Oh,
mais le cruel régent Tristan a empoisonné notre prince. Et l'a transformé en... chapoule. Moitié chat, moitié poule.
Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole?
Il me faudra du courage. Beaucoup de courage.
Et surtout, n'allez pas dans l'ombre.
Attendez, il va y avoir des trucs dangereux.
On massacre, on gicoule.
On fait du mal au petit chat. Pardon.
Je suis la seule à pouvoir sauver le royaume.
Personne ne peut s'opposer à moi.
La noblesse, c'est ce qu'on a dans le cœur.
Phil.
Voilà donc de l'action en animation oui. pour les enfants à retrouver dès aujourd'hui au cinéma.
Elle est mignonne, Phil. On a envie de l'aider d'ailleurs.
Elle a une bonne tête.
Ah ouais, elle a une bonne bouille. Voilà, c'est ça.
Et maintenant, on va continuer avec un film de Sean Levy qui s'appelle Free Guy.
Oui. Free Guy.
L'homme libre.
Oui, c'est une comédie, il y a de l'action, il y a de l'aventure, c'est américain. Ça dure 1h55 et c'est de Sean Levy, tu viens de le dire, qui est un réalisateur, scénariste, producteur DVD canadien. Il a 53 ans, 31 ans de carrière, 105 tournages à son actif et puis pas mal de nominations aussi. Hein. Bah, il a eu des nominations pour La Nuit au Musée, par exemple, qui était sortie en 2007. Et avec Ben Stiller et Mickey Rooney. C'est le dernier film dans lequel on a vu Mickey Rooney, d'ailleurs. Il me semble que c'était son dernier. Non, le dernier, c'était pas celui-là. C'était La Nuit au Musée, le suivant, le secret des Pharaons, qui est sorti en 2014. C'est ça, voilà. Et c'était le dernier Mickey Rooney, un grand acteur américain. Et il a eu des nominations pour La Panthère Rose aussi, sorti en 2006. Et pour Premier Contact, sorti en 2016, c'est un film science-fiction d'ailleurs, avec Forrest Whitaker et Amy Adams. Dans La Panthère Rose, il y avait Kevin Kline et Steve Martin. Il était très drôle d'ailleurs, celui-là, La Panthère Rose, en 2006. Donc il a été nominé pour tous ses films, Sean Levy. Voilà. Alors c'est quoi Free Guy? C'est l'histoire d'un employé de banque, Guy justement, découvrant un jour qu'il n'est en fait qu'un personnage d'arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne. Il décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Évoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière avant qu'il ne soit trop tard. Ah oui, il y a de l'action, mais c'est de la comédie aussi. Hein. Donc... Apprendre avec, comment dire, il y a une part quand même d'humour et de comédie, quoi. Donc, c'est apprendre comme ça, hein. Il faut le regarder comme ça, avec cet esprit-là. Et cet été, on nous dit, le monde a besoin d'un héros, c'est tombé sur lui. Alors, dans le rôle de Guy, on a Ryan Reynolds, qui est un acteur américain ou canadien. On a Jeudi Comer. On a Lil Rel Howery dans le film et on a Joey Keery dans les rôles principaux. Ah, on a également l'acteur néo-zélandais Taika Waititi. Alors Taika Waititi, il est le réalisateur, c'est aussi un réalisateur de Thor Ragnarok qui est sorti en 2017 et de Jojo Rabbit qui est sorti en janvier 2020. On en avait parlé à l'antenne d'ailleurs, hein, de Jojo Rabbit, justement. Voilà, mais il est là, il est dans ce film, Taika Waititi. Alors le film de Sean Levy, là, Free Guy, il a eu une sortie très repoussée quand même. Hein, il était prévu en juillet 2020, 1er juillet d'ailleurs, dans les salles françaises. Ouais, il était prévu. Après, il était prévu pour le 9 décembre 2020, et puis mai et juin 2021, en raison de la pandémie, bien sûr, hein, de Covid-19. Et du coup, on l'a maintenant, ça y est. On est sûr de l'avoir, youpi, il passe dans les cinémas. Enfin, Sean Levy, lui, c'est quand même un réalisateur qui a une plage de possibilités très étendue. Hein. C'est un cinéaste qui est aussi bien habitué à la comédie, au fantastique, à la science-fiction. Voilà, il a vraiment des possibilités très étendues, ce réalisateur. Donc, il fait des trucs pas mal du tout. Plutôt bien, même. Free Guy.
Free Guy, du coup. Et maintenant, on revient en France avec une comédie qui s'appelle C'est quoi ce papy ? Une comédie de Gabriel Julien Laferrière.
Oui, C'est quoi ce papy ? Comédie française. Oui, Gabriel Julien Laferrière, comme tu dis, réalisateur scénariste français. Il a 53 ans, 29 ans de carrière, il a 20 tournages aussi à son actif. Il a eu une nomination en 2009 au Paris Cinéma pour Neuilly sa mère. Qui était très bien d'ailleurs, c'est un chouette film, Neuilly sa mère, avec Rachida Brakni et Denis Podalydès dans les rôles principaux. Rachida Brakni, pour la petite histoire, c'est l'épouse d'Éric Cantona. Et oui, notre grand sportif.
Et là, c'est une suite qui nous est proposée.
Oui, c'est ça. Alors, tout à fait. Alors, le premier, c'était... C'est quoi ce... ben, en fait, c'est une trilogie, hein. C'est le troisième volet d'une trilogie. C'est pire que ça, parce que avant, alors ça a commencé en 2016, hein. Il y a eu, en août 2016, il y a eu C'est quoi cette famille? En août 2019, on en avait parlé évidemment à l'antenne, C'est quoi cette mamie? Voilà. Et là maintenant, C'est quoi ce papy? Voilà. Alors, c'est quoi cette famille, le premier, a attiré 700 000 spectateurs en salle. Et le second, C'est quoi cette mamie, a attiré 1 200 000 spectateurs. Ça a augmenté au fur et à mesure. Et du coup, le metteur en scène nous dit que, il nous dit, la vérité, c'est que le public m'a soufflé de faire cette suite. Voilà. On lui a demandé après C'est quoi cette famille de continuer, et puis après C'est quoi cette mamie qui a très bien marché, ben, on lui a demandé de continuer, et donc là il a pris papy. Alors on va ça parle de quoi là au fait, C'est quoi ce papy? Aurore, la plus déjantée des mamies qu'on connaît, puisqu'on l'avait vue normalement dans le précédent,
qui est ni plus ni moins que Chantal Latsou.
Tout à fait. Elle fait une chute spectaculaire lors d'une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d'un mystérieux Gégé. Gégé qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses 7 petits-enfants décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu'ils croient être leur papy. Mais quand mamie rencontre papy, la famille n'est pas au bout de ses surprises. Oui, Chantal Latsou, ben oui, qui est là depuis le début, hein, dans cette trilogie. C'est la mamie Aurore. On a Patrick Chenet, on a Julie Gayet, on a Thierry Neuvik, Julie Depardieu, Lucien Jean-Baptiste, Claudia Tagbo, Philippe Catherine, on a Ariel Mallet, etc., etc. Il y en a encore plein d'autres. On retrouve les mêmes, hein. On retrouve absolument les mêmes. C'est un casting sympathique. Tout à fait sympathique. Alors bon, donc on lui a demandé de continuer. Alors du coup, il a dû inventer ce papy qui était réclamé par le public et justifier le fait qu'il débarque seulement dans ce troisième volet. Et oui, pourquoi ne pas l'avoir mis dans les autres volets ? Eh bien voilà, il débarque dans ce troisième volet aux côtés de Mamie Aurore parce que le réalisateur s'est dit qu'après les années 70 glam chic Saint-Tropez de Mamie Aurore évoqué dans C'est quoi cette mamie, le bon cadre pour le papy serait l'autre face des années 70, c'est-à-dire le retour à la terre, les néo-ruraux, enfin voilà, cette contre-culture qui est née de mai 68. Voilà ce que nous dit le réalisateur. Alors, le contraste entre ces deux choix radicaux à l'époque de leur jeunesse serait, dit-il, un bon moteur pour justifier leur séparation, le temps passé à distance. Et que leur retrouvaille serait un bon générateur de comédie entre eux. Et voilà, il a trouvé ça. Donc, du coup, eh ben, il s'est lancé. Allez, il a fait appel une nouvelle fois à Sébastien Mounier pour le scénario, qui est coécrit justement avec lui. Alors voilà, comme il nous dit que en fait, connaissant mes personnages par cœur, je sais à peu près comment les faire évoluer. C'est ce qu'il nous dit. Il savait. Hein. Alors voilà, il a essayé d'abord tout seul et puis après ils ont co-réalisé ce scénario. Alors qui prendre pour le papy? Ça, c'est une bonne question. Il ne fallait pas se tromper là. Hein. Ben, c'est Patrick Chenet. C'est Patrick Chenet qui s'est rapidement imposé dans le rôle du fiancé de Chantal Latsou. En fait, Patrick Chesnais fait partie des acteurs préférés de Gabriel Julien Laferrière. Mais ça, c'est depuis qu'il l'a vu dans « Je ne suis pas là pour être aimé » de Stéphane Brisé. Moi, ce film, j'en ai souvent parlé à l'antenne, « Je ne suis pas là pour être aimé ». Mais chérie, si vous aimez le jeu de Patrick Chesnais, si vous aimez ce que fait Stéphane Brisé, franchement, il faut la voir absolument dans la vidéothèque, ce « Je ne suis pas là pour être aimé ». Vraiment. Je comprends que le réalisateur Gabriel Julien Laferrière ait été absolument ébloui par le jeu de Patrick Chesnais dans « Je ne suis pas là pour être aimé ». C'est certainement un de ses meilleurs rôles. Hein. Vraiment. Et alors, il nous dit que, et en parlant du comédien, le réalisateur nous dit son trajet de comédien est différent de celui de Chantal, là-dessous, mais il est de la même génération qu'elle. Donc, il a trouvé passionnant de le mettre, lui, face à elle. Voilà. Pour le plaisir des spectateurs, bien sûr. Parce que ces deux-là, quand même, c'est pas trop mal. Alors en fait, il a voulu que le personnage du papy Gégé offre aux enfants et aux spectateurs une aventure forte d'un point de vue visuel. Dans « C'est quoi cette mamie ?», le réalisateur nous dit, « Entraîné par mamie Aurore, tous les mômes sautaient de la falaise. » Voilà. Alors du coup, le producteur, lui, a eu l'idée de la balade en montgolfière. C'est fort, la montgolfière. C'est esthétique, c'est joyeux, et ça transporte un monde fou dans une nacelle. C'est comme une belle métaphore de ce que racontent mes histoires, ajoute le réalisateur, sur l'énergie et le bonheur que peut donner le collectif. J'ai écrit une scène assez courte. Au final, c'est devenu la plus longue du film et visuellement, c'est celle que je préfère. Il parle de la scène en montgolfière, hein, qui normalement était une petite scène qui aurait pu presque passer inaperçue et qui est devenue... au contraire, la préférée du réalisateur est la meilleure pour lui. Au point de vue visuel, bien sûr. Hein. On parle du visuel. Là. C'est quoi ce papy ? 1h43, je ne sais pas si je l'avais dit.
Voilà donc une comédie pour se détendre cet été.
C'est quoi ?
On va continuer maintenant avec un film de Farid Bentoumi qui s'appelle Rouge.
Rouge, eh oui, Rouge, tout simplement, qui a une nomination quand même au Festival de Cannes 2020. C'est le label Les Nouveaux Venus. Alors c'est un thriller français et belge qui dure 1h28. Nour, c'est l'héroïne, vient d'être embauchée comme infirmière dans l'usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de l'entreprise depuis toujours. Alors que l'usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l'enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l'économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité. Et oui, Farid Bentoumi, comme tu l'as dit, est un réalisateur, scénariste, acteur franco-algérien. Il a 45 ans, 14 ans de carrière, 11 tournages à son actif. Il a eu des nominations aussi, dont une d'ailleurs pour Good Luck Algeria, qui est sortie en 2016. C'est une chouette comédie d'ailleurs, avec Sami Bouajila et Chiara Mastroianni. Pareil, il faut la voir dans sa vidéothèque parce qu'on a envie de le regarder de temps en temps, ce film, justement. Et puis, il a eu aussi une nomination pour Brûleur, qui était un court-métrage de 15 minutes qui est sorti en 2012 et qui a très, très bien marché, qui a fait pas mal de festivals et qui a beaucoup plu à la critique. Donc, c'est comme... Farid Bentoumi, il travaille beaucoup pour des séries télévisées. Il est très... comme par exemple, il a travaillé sur Munch. Oui. Commissaire Magellan, Les Bleus, etc. Il a travaillé sur des séries qui sont quand même très connues. Hein, qui sont quand même assez regardées. Alors, l'histoire est inspirée de faits réels. Et oui, ça, c'est beaucoup moins drôle. Donc, Farid Bentoumi, au début, il avait imaginé une histoire semblable à celle de Rouge, mais qui se déroulait chez les éboueurs. La même chose, mais chez les éboueurs. Mais le milieu professionnel de la gestion des déchets est aujourd'hui tellement surveillé, nous dit-il, qu'il n'y a plus d'affaires liées à la pollution. Et du coup, quand il s'est documenté, il est tombé sur l'histoire de l'usine de Gardanne, qui rejette ses déchets toxiques dans la Méditerranée. Il nous dit que cela fait plusieurs années que le gouvernement et la préfecture leur demandent d'arrêter de polluer la mer. Mais cette usine, c'est aussi 500 emplois à la clé, ce qui n'est pas rien dans un endroit comme Gardanne, déjà marqué par le chômage. Lorsque j'ai vu les photos de cette usine et ses bouts rouges, j'ai trouvé ça très frappant en termes cinématographiques. J'ai transposé mon histoire dans ce type d'usine qui existe aussi ailleurs dans le monde. Eh oui, malheureusement, il y en a partout. En fait, il souhaitait faire une mentoumise. Il ne souhaitait faire ce film qu'au bord de la mer ou en montagne. Autrement dit, dans un lieu naturel fort, quoi. Et qui soit évidemment taché par la pollution. Alors, pour le tournage, on a sali une usine avec de l'argile ocre, dit-il. Le rouge, c'est la salissure, mais c'est aussi le sang, la blessure. Et puis la couleur politique de l'engagement syndical. On explique le titre comme ça. La couleur rouge est présente uniquement sur les murs de l'usine, le lac de Roger pardon, toxique et la robe de Nour. Ailleurs, et rien n'est rouge. C'est ce qui fait d'ailleurs d'autant mieux ressortir cette couleur quand elle est présente. Ensuite, nous dit-il, j'avais envie de suivre les personnages, qu'ils soient cadrés près des visages. C'est surtout Georges qui s'occupe de l'image, je suis plus concentrée sur la direction d'acteur, c'est son assistant. Les comédiens sont au centre de ma démarche de mise en scène et Georges s'adapte en fonction de ça. Voilà. Donc là, dans ce film, il retrouve le comédien Sami Bouajila, qui a déjà travaillé avec lui. Ben, justement, il était dans Good Luck Algeria, il avait le rôle principal, sorti en 2015, hein, dont, que j'ai cité tout à l'heure, qui avait une nomination, une jolie nomination. Et puis il y a les acteurs que je vais citer, là. Il y a Olivier Gourmet et Céline Salette aussi, qui ont déjà travaillé avec Farid Bentoumi dans Un peuple et son roi. Sorti en 2018, on en avait parlé de ce film, ici à l'antenne. Un peuple et son roi. Très beau film. Voilà. En fait, au départ, il est question d'un père et de son fils, hein, qui sont au centre du récit. Mais le réalisateur a préféré réécrire le rôle, dans l'histoire vraie, quoi, a préféré réécrire le rôle pour une fille. Et il a tout de suite pensé à Zita Hanro pour le jouer. Oui, parce que dans les acteurs, on a donc Zita Hanro, c'est elle qui joue Nour. On a Sami Bouajila, on a Céline Salette, Olivier Gourmet, qui est un acteur belge, hein, qu'on aime beaucoup, Thierry Rousset, Henri-Noël Tabary. C'est un beau casting, avec des acteurs pleins de talent. C'est un très, très beau casting. Et un beau film aussi, Rouge.
Rouge,
mais bon,
donc.
Ça fait froid dans le dos quand même, un peu. Hein. Ah oui. Cette histoire de pollution de la Méditerranée, ça fait peur tout ça. J'en ai un peu la chair de poule, moi. Faut pas trop y penser parce que bouf, la Méditerranée qui est si belle.
Et après Rouge, c'est un film de Cesc Gay que l'on retrouve.
Oui.
Film qui s'appelle Sentimental.
Sentimental, c'est un comédie dramatique espagnole qui dure 1h21. Oui, Cesc Gay, c'est un réalisateur, scénariste, créateur, showrunner espagnol. Il a 54 ans, 20 ans de carrière, 7 tournages à son actif et 3 nominations pour de beaux films qu'il a tournés. Par exemple, en 2014, Les hommes, de quoi parlent-ils ? Point d'interrogation, c'est le titre. Comédie dramatique avec Ricardo Darín et Javier Camara. Alors, j'en avais parlé aussi parce que je me souviens que j'avais mentionné que Ricardo Darín est un très très grand acteur, c'est un des plus grands acteurs argentins d'ailleurs, et ce film était assez extraordinaire, hein. Et j'avais parlé de Ricardo Darín, pas du film lui-même, mais de Ricardo Darín, j'en ai parlé souvent, et là il avait le rôle principal. C'est vraiment un très grand acteur. Et puis, il avait une nomination pour Fiction aussi. Fiction était sorti en 2006, c'était un drame, avec Javier Camara encore et Édouard Fernandez. En fait, il a deux acteurs fétiches, Cesc Gay. C'est Ricardo Darín et Javier Camara. Il les a il les prend dans ses films le plus souvent possible. Voilà. Alors, après des années de vie commune, Julio et Anna traversent une crise dans leur couple, jusqu'au soir où Anna décide d'inviter leur voisin du dessus à dîner sans prévenir Rulio, qui ne les porte pas dans son cœur. Son grief, le bruit qu'ils font chaque soir lors de leurs ébats déchaînés. Au fil de ce dîner, la routine de Rulio et Anna se heurte aux mœurs plus que libérées de leurs voisins. Les langues se délient, les secrets se dévoilent et les masques tombent. Alors on a donc Javier Camara. Alors Javier Camara et Griselda Siciliani, qui est une actrice argentine, jouent le rôle de Rulio et Anna. Quant à l'autre couple, celui qui est invité, c'est Alberto San Juan et Belén Cuesta qui endossent les deux rôles. Alors c'est amour, sexe, fantaisie, c'est titré comme ça. On rit beaucoup. Et c'est même titré une comédie caliente. Alors caliente, ça veut dire chaud. C'est chaud, une comédie caliente. Voilà. Sentimentale. Ah oui, oui, à voir parce que, c'est, oui, effectivement, c'est très drôle. Très, très drôle. En même temps, et puis avec des acteurs quand même assez champions. Et oui.
Donc voilà pour ce film de Cesc Gay. Et maintenant, c'est un film de Anne-Zora Berached qui s'appelle « Ce qui reste ».
Ce qui reste, oui. C'est un drame allemand et français d'1h59. Anne-Zora Berached, oui, tu viens de la nommer, réalisatrice, scénariste. Elle est également auteure. C'est une Allemande, elle a 39 ans, 3 ans de carrière. Elle a 2 tournages à son actif. Et elle a eu 7 nominations à la Berlinale 2016 pour son film 24 semaines, qui est un drame allemand, qui est une, voilà, c'est une jeune femme qui est enceinte de 6 mois et qui apprend que son bébé est handicapé. Voilà. Elle est soutenue par son mari et elle doit très rapidement prendre une décision. C'était ça, 24 semaines. Très beau film qui a eu beaucoup de succès en Allemagne, puisqu'il a eu toutes ses nominations. Là, ce qui reste, c'est quoi ? C'est l'histoire de Asli. Asli, c'est une brillante étudiante en médecine qui rencontre le charismatique Saed au milieu des années 90. C'est le coup de foudre. Ils se marient et Asli promet à Saed de lui être fidèle et de ne jamais dévoiler ses secrets. Leur avenir semble radieux, mais à l'approche du 21e siècle, Saed prend une décision qui va non seulement briser les rêves d'Asli, mais faire trembler le monde entier. Je crois qu'on a déjà deviné un peu de quoi il s'agit. Faire trembler le monde entier au XXIe siècle, quand c'est tout ce qui s'est passé. On imagine déjà quand même, il ne faut pas trop en dire. Il faut aller voir le film. C'est Roger Hazard, qui est un acteur libanais, qui joue le rôle de Saed. C'est une actrice allemande qui joue Asli. C'est Jana Julia Roth. On a aussi un acteur allemand et turc, Ose Fecht, qui est dans ce film. Non, c'est une actrice, pardon, Ose Fecht. Une actrice allemande et turque. On a un acteur allemand, Meral Perrin aussi. On a un acteur syrien, Aziz Diab. Et une actrice libanaise, Darina Al-Joundi, dans les rôles principaux. C'est titré, en fait, une quête amoureuse percutée par l'histoire. Brillant. Bon, voilà, on devine, on ne va pas en dire plus, mais on devine ce que va faire cet homme qui va faire trembler le monde entier. Ce qui reste.
Ce qui reste. Et maintenant, c'est un film de Burhan Kurbani qui s'appelle Berlin Alexanderplatz.
Oui, Berlin Alexanderplatz, qui est une place justement très très célèbre à Berlin Alexanderplatz. C'est un drame allemand et néerlandais. Voilà, de Burhan Kurbani, qui est un réalisateur, scénariste, un acteur aussi allemand, il a 40 ans. Et son premier long métrage est sorti en 2011, s'appelait Shahada. C'était un drame aussi, l'histoire de trois jeunes musulmans qui essayaient de concilier leurs pratiques religieuses avec un mode de vie occidental. Beau succès, ça a été un beau succès critique, ce film Shahada, en 2011. Et puis là, il a 4 nominations pour Berlin Alexanderplatz au Reims Polar, Festival international du film policier, en 2021. C'est une nouvelle adaptation du roman culte d'Alfred Döblin, qui est sorti en 1929. Berlin aujourd'hui. Francis a 30 ans, c'est un réfugié de Guinée-Bissau. Alors, Guinée-Bissau, pardon. C'est quoi, Bissau ? Ben, c'est un pays tropical qui est situé sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest et qui est connu pour ses parcs nationaux et sa faune. Je parle du Bissau, là. Donc, lui, il vient de Guinée-Bissau. Il se retrouve dans la capitale allemande après avoir traversé illégalement la Méditerranée sur un bateau. Seul survivant du voyage, il se rend vite compte que gagner sa vie honnêtement en tant que réfugié apatride sans papier est pratiquement impossible. Francis s'efforce d'abord de rester sur la bonne voie. Même après avoir rencontré le trafiquant de drogue allemand Reinhold, et Francis se retrouve ainsi aspiré dans le monde souterrain de Berlin. Dans les rôles, on a Welket Bungay qui joue Francis. C'est un acteur guinéen, Welket Bungay. On a Jella Haas, qui est une actrice allemande. On a Albrecht Tschusch, qui joue Reinhold, l'affreux, le vilain trafiquant de drogue. C'est un acteur allemand. Et on a Joachim Kroll aussi, dans les rôles principaux, qui est un acteur allemand. Alors en fait, je l'ai dit, hein, adapté du roman d'Alfred Döblin. Et c'est un livre en fait, qui a marqué le réalisateur, Bohan Kurbani, pardon. Il l'a découvert au lycée, ce livre. Ouais. Et puis quelques années plus tard, après, il a déménagé à Berlin, il a relu le roman et il en est vraiment tombé amoureux. Donc, ça a donné lieu à cette réalisation, justement. Cet amour pour ce roman. Quelle chance de pouvoir le mettre après sur des images. Alors, pendant l'écriture de scénario, il nous dit qu'il a regardé des films de référence, en fait. Par exemple, il a regardé Scarface de Brian De Palma, qui est sorti en 1984 avec Al Pacino. Il a regardé Un prophète aussi de Jacques Audiard, qui est sorti en 2009 avec Tahar Rahim, qui a très bien marché déjà à l'époque. Et il a regardé Le parrain de Francis Ford Coppola, qui est sorti en 1972 avec, évidemment, Marlon Brando. On s'en souvient quand même. Mais aussi, il a voulu regarder des films qui évoquent le monde des gangsters, mais aussi et surtout des populations immigrées. Alors, il nous dit que son film véhicule une certaine esthétique. On peut dire qu'il est romantique, dans le sens littéraire et allemand du terme. La poésie, par ailleurs, m'a également beaucoup influencé. Voilà ce qu'il a précisé pour son film. Alors, il voulait adopter dans ce film le point de vue d'un homme qui venait d'Afrique. Et comme lui-même, le cinéaste, est issu d'une minorité, de la communauté afghane, donc il nous dit qu'à Berlin, il y a énormément d'immigrés de pays arabes visibles et plutôt bien intégrés, ce qui n'est pas forcément le cas des immigrés africains. Il voulait mettre l'accent, nous dit-il, sur la parole de l'un d'entre eux, Francis, et le visage, mais également la voix et l'histoire de tous ces hommes venus d'Afrique. Alors Berlin, Alexanderplatz, n'est pas tant un film sur les réfugiés, mais plus un récit sur les conditions qui poussent ces immigrés à quitter leur pays. Et oui, ça c'est intéressant justement, et oui, savoir pourquoi ils quittent leur pays. Donc, c'est quand même. Il y a déjà eu deux adaptations d'ailleurs de ce roman-là d'Alfred Döblin. En 1930, il y a eu Berlin Alexanderplatz de Fitz Jutsi, il s'appelait le réalisateur. Puis il y a eu aussi Berlin Alexanderplatz en 1980 de Rainer Werner Fassbinder, grand réalisateur. C'était une série de 14 épisodes d'ailleurs. Voilà. Donc là, au départ, le réalisateur voulait un acteur non professionnel, voilà, pour incarner Francis. Mais la complexité, nous dit-il, inhérente au personnage, m'a finalement poussé à prendre un comédien professionnel. Alors, ils ont cherché dans plusieurs pays, sans succès. Puis en 2017, c'est sa directrice de casting, Suzanne Marcat, d'ailleurs, qui a vu le film brésilien Joachim en compétition à la Berlinale. Et il y avait Welket Bungay, il tenait un rôle secondaire. Elle a donc suggéré le nom de cet acteur. Voilà. Alors, il n'était pas très convaincu au départ. Et puis, voilà, quand il l'a rencontré, c'est devenu une évidence pour lui. C'était bien lui, Francis, justement. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur Berlin, Alexanderplatz.
Voilà donc pour ce film. Et maintenant...
Qui dure 3h03 quand même. Hein.
Oui, il faut s'y préparer.
Il faut le signaler.
Et maintenant, c'est un film de Daniel Arbid que tu nous proposes, oui. Qui s'appelle Passion simple.
Passion simple, oui, c'est un drame, c'est de la romance aussi. Alors c'est français, c'est belge et c'est libanais. Il y a une nomination au Festival de Cannes 2020 pour le label Les Nouveaux Venus. Alors attention, un avertissement, hein, des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça, il faut toujours bien le noter. Voilà, alors à partir, là c'est quelqu'un qui parle hein, dans ce synopsis. À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme qui me téléphone et qu'il vienne chez moi. Tout de lui m'a été précieux, ses yeux, sa bouche, son sexe, ses souvenirs d'enfant, sa voix, point de suspension. Et l'héroïne qui parle comme ça, enfin, s'appelle Hélène dans le film. Alors le film est de Daniel Arbid, oui, réalisatrice, scénariste, actrice libanaise. Elle a 51 ans, 22 ans de carrière, 10 tournages et elle a 5 nominations. Et en plus de la nomination au Festival de Cannes, 5 nominations pour Passion simple, donc. Elle a eu aussi 4 nominations pour un film qui était sorti en 2007 avec Melvin Poupeau, qu'on connaît bien, un grand acteur, pour Un homme perdu, qui était un drame. Bon, là, c'est un joli casting, en fait. Hein. Il y a Laetitia Doche, actrice franco-suisse, qui joue le rôle d'Hélène. Personnage principal. On a Sergueï Polounin. Alors, Sergueï Polounin, c'est un acteur russe qui est justement l'homme qu'elle attend. L'homme qu'elle aime et qu'elle attend. Sergueï Polounin. On a Lou Taimour Thion, qui est un acteur français. On a Caroline Ducey, qui est française également. On a Grégoire Collin, mais on les connaît, ceux-là, on les connaît. Hein. On a Slimane Dazi, Elina Lowenson. Alors, Elina Lowenson, c'est une américano-roumaine, une actrice américano-roumaine. Ils sont connus, en fait, pour la plupart. En tout cas, tous les acteurs français, là, sont connus. C'est un joli casting, c'est ce que je disais. Et c'est un film qui est adapté du roman d'Annie Ernaux, Passion simple, qui est sorti en 1992. C'est titré « Magnifique et sensuel, Passion simple ». C'est un livre, c'est pareil, c'est comme un peu pour le film précédent « Berlin, Alexanderplatz ». C'est un livre qui a beaucoup marqué la réalisatrice Daniel Arbid. Et voilà, pareil, quoi. On tombe un peu amoureux d'un roman et puis voilà, on a envie de réaliser un film. C'est ça, pareil, elle a eu le même réflexe. Et oui, c'est un roman, elle dit qu'il faisait un état des lieux parfait, précis et merveilleux de la passion amoureuse. Le roman en exposait les syndromes, un peu à la manière de Georges Perec. Mais voilà, donc quelques années plus tard, en fait, elle l'a vu à sa sortie. En 1991, une affiche du beau visage d'Annie Ernaux, qui est l'écrivaine, avec une accroche du style « Une femme amoureuse d'un Russe ». Regardez ce visage amoureux, presque vulnérable, fragile, c'était une forme de communication indirecte entre nous deux, au point de me demander à quoi pouvait bien ressembler le mien à ce moment-là. Parce que j'avais lu « Passion simple », parce que j'étais dans le même état qu'elle. Voilà. Voilà ce que nous dit la réalisatrice. En fait, la romancière Annie Ernaux, par contre, ne voulait pas intervenir dans l'écriture du scénario. Alors, la réalisatrice nous dit que c'était important pour elle, ça, justement. Annie avait aimé mes précédents films, particulièrement Un homme perdu, hein, que j'ai cité tout à l'heure, qui est un film charnel et accidenté. Grâce à la confiance qu'elle m'accordait, j'ai pu m'affranchir du grand écrivain qu'elle est. Parce qu'Annie est une femme libre, elle ne jouit pas de son pouvoir. C'est ainsi que ma rencontre avec Passion simple a été la plus libre et la plus décomplexée possible. C'est un hommage à l'amour, en fait. C'est ça. Voilà. Elle dit que Tomber amoureux est une chance. Voilà ce que nous dit la réalisatrice. Mes chéris, surtout, hein, si vous n'avez pas d'amoureux, ne perdez pas de temps d'amoureuse. Allez, vite, il faut tomber amoureux parce que c'est une chance. Je pense que c'est vrai, finalement. Voilà. C'est un conseil de la réalisatrice et je trouve que c'est pas mal du tout de dire que tomber amoureux est une chance, bien sûr. Enfin, si l'autre est amoureux aussi, bien sûr. Hein.
Oui, c'est toujours plus facile.
Ben oui, c'est plus facile, oui.
Et avant de se quitter, tu nous proposes un dernier film qui s'appelle Escape Game 2.
Oui.
De Le Monde est un piège, film d'Adam Robitel.
Eh oui, Escape Game 2, tiré, Le Monde est un piège, thriller. C'est épouvante, horreur, c'est américain, mais on connaît Escape Game quand même. Parce qu'il y a eu le premier, évidemment, forcément, parce que ça, c'est le 2. Escape Game, le premier, est sorti d'ailleurs en février 2019. On en avait parlé déjà. Oui, enfin, quand on traduit, ben, c'est jeu d'évasion, hein. C'est ce que ça veut dire, hein, escape, évasion, game, c'est jeu. Voilà. Et c'était Adam Robitel, effectivement réalisateur américain, là, oui, qui a réalisé aussi le 2, c'était déjà lui pour le premier. Il est réalisateur, scénariste, acteur américain, il a 43 ans, 20 ans de carrière et 13 tournages à son actif. Donc il était déjà là en 2019 pour le premier. Adam Robitel, en fait, est un spécialiste du thriller et de l'épouvante et de l'horreur. Grand spécialiste. Et oui. D'ailleurs, Escape Game avait eu quand même 6 nominations au Fantastic Arts, Festival du film fantastique de Gérard Maire, en 2019, précisément. Alors, évidemment, pour le premier, il y avait un avertissement. Scène, propos, images, tout ça, qui pouvait heurter la sensibilité des spectateurs. Il n'y a pas d'avertissement sur le deuxième. Je me suis un peu posé la question quand même. Oui, ça me paraissait quand même un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas d'avertissement pour le deuxième. En fait, Escape Game, c'est quoi ? C'est un type de jeu de rôle grandeur nature. Hein, c'est ça qui constitue la déclinaison physique des jeux vidéo de type Escape the Room, des choses comme ça. La plupart du temps, le jeu consiste à tenter de s'échapper d'une pièce en un temps limité. Généralement, c'est une heure d'ailleurs. Et puis en fait, il se pratique habituellement. En groupe, ça peut aller de 2 à 5 ou 6 personnes. Bon, mais il y a aussi des concepts qui existent pour une seule personne. Là, je ne suis pas sûre d'encourager qui que ce soit à le faire tout seul quand même. Je ne sais pas. Alors, Escape Game 2, donc, c'est le monde est un piège, c'est la suite donc de celui dont je viens de parler, hein, du thriller psychologique à succès qui a terrifié les spectateurs à travers le monde. Et oui, le premier déjà faisait très peur. Dans cet opus, dans ce 2, 6 personnes se retrouvent involontairement enfermées dans une nouvelle succession d'Escape Game. Ils découvrent peu à peu leurs points communs qui peuvent leur permettre de survivre. Et ils se rendent compte qu'ils ont déjà tous joué à ce jeu auparavant. Ah oui, là, c'est quand même... Et pas d'avertissement, moi, ça m'a un peu surprise quand même. 1h28. Alors, on a Thomas Cockerell, c'est un acteur australien dans les rôles principaux. India Moore est américaine. Tanya Van Graan, qui est une actrice sud-africaine. On a Taylor Russell Mackenzie, qui était déjà dans le premier d'ailleurs, qui est une actrice canadienne. Et déjà dans le premier, on a Logan Miller aussi, qui est un acteur américain. Donc, ils ont remis le couvert, ces deux-là, hein, ces deux acteurs. Voilà. Et c'est titré, ils ont survécu, mais sont restés enfermés. Là. Bon. Alors, si vous n'avez pas vu le premier, vous pouvez peut-être voir quand même le deuxième, si le thriller épouvante horreur vous branche, comme on dit. Mais c'est vrai que lui, avec Adam, quand même, Robitel, on est sûr d'avoir du bon cinéma, quand même, hein, dans le genre. Alors, si vous aimez... Même si vous n'avez pas vu le premier, allez voir quand même le deuxième, parce que c'est terrible, on nous dit aussi, quand la réalité rejoint la fiction. Ben oui, Mais je pense que celui-là va marcher également comme le premier. Voilà, je voulais finir sur cette petite note joyeuse.
Très bien.
D'épouvante.
Ouais, comme à ton habitude, la fin, il y a souvent de l'épouvante.
Ah mais chérie, je voulais pas vous faire peur, hein, mais simplement pour ceux qui aiment quand même, autant aller voir les bons films qui d'épouvante. Parce qu'il y en a beaucoup qui sortent, hein, il y en a des très mauvais.
Il y en a très très mauvais. Oui.
Et il y en a des très bons comme Escape Game, évidemment.
C'est ça. Et ben, merci beaucoup, Anne. Je rappelle aux auditeurs que vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission sur le site internet de la radio, www.redem.com. Et du coup, c'est la catégorie podcast, conversation autour du cinéma. Et vous avez toutes les anciennes émissions.
Tout à fait. Merci, Damien. Merci, merci d'être là. Mon soutien. Merci pour les bandes-annonces. On n'en a pas eu beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de bandes-annonces qui n'étaient pas vraiment en français. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, mes chéris, passez une bonne semaine, une excellente semaine. Pour ceux qui sont en vacances, tant mieux, profitez-en. Et pour les autres, ben, ça ne fait rien. Hein, profitez-en quand même si vous êtes en vacances chez vous. Dormir le matin, voilà. Se faire des petits plateaux télé ou aller au cinéma, bien sûr. En tout cas, il y a plein de choses à faire, même si on n'est pas parti loin. En tout cas, bon, moi, je voulais vous rappeler que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Aux yeux, tu sais.